Radio Okapi.
Comment renforcer la collaboration entre les dirigeants et la population de Beni? La question a fait l'objet d'un dialogue démocratique des deux jours dans cette ville du Nord Kivu. Les jeunes proposent que des informations utiles leur soient livrées pour éviter tout chaos dans la ville. Le français, désormais une des langues officielles aux côtés du swahili et de l'anglais pour les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, annonce faite hier à Kinshasa par le mandataire spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous entendrez Serge Tshibangu à ce sujet. Et puis, l'invité de ce midi, Nicolas Kikuku, bourgmestre de la commune rurale de Oicha, à Beni Territoire. Il nous parle notamment de la situation catastrophique des déplacés dans cette région, avec comme conséquence l'occupation de plusieurs espaces scolaires. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Beni au Nord Kivu. Les incidents et différentes altercations enregistrées dans la ville tirent leurs origines dans l'ignorance de certaines attributions et du protocole à respecter avant d'introduire toute demande aux autorités. C'est ce qui ressort du dialogue démocratique des deux jours entre les différentes couches de la population de Beni, ce dans le cadre de renforcement de collaboration entre les administrés et les autorités. Les jeunes proposent que des informations utiles sur les attributions et canaux de communication soit rendue disponible pour éviter tout chaos dans la ville. C'est comme le dit ici Stéphanie Mbafumoja, participante au dialogue. Elle est au micro de Marc Marofimbo.
Moi, je pense que la grande partie a marché. Néanmoins, ce qui n'a pas marché, c'est du fait que nous, la population, nous ne connaissons pas les attributions de chaque service public. Parfois, nous perdons des cibles. Et nous devons également comprendre que dans des services publics, il y a les protocoles à respecter. Malheureusement, les questions que nous leur posons, elles nécessitent des réponses urgentes. C'est un peu ce qui ne marche pas. Alors, je voudrais assez que, s'il y a moyen qu'on puisse nous mettre à jour, de savoir les spécialités, les attributions de chaque service et nous montrer tous les protocoles à respecter avant de trouver une solution.
Par ailleurs, le collectif des mouvements citoyens dénommé Justice pour tous s'indigne de la persistance de l'occupation de Bunagana par le M23 et des tueries à répétition en Ituri. Cet ensemble des mouvements citoyens œuvrant à Kinshasa, tels que Mwanamboka, jeune leader, mouvement du 30 juin et jeunesse en action, exige au président de l'Assemblée nationale de dénoncer les députés qui seraient impliqués dans l'insécurité dans l'est de la RDC pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Écoutez à ce sujet Joël Ituk, secrétaire général du collectif Justice pour tous. Il est au micro de Innocent Fadili.
3 mois, jour après jour, Bunagana sous l'emprise du M23, l'Ituri sous menace des Codeco et ADEF. Nous nous demandons pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'a encore publié la liste des députés nationaux membres des groupes armés. N'est-il pas responsable de ces propos dérangeux? L'exigence citoyenne nous oblige à faire pression sur eux qui sont porteurs du pouvoir du peuple sur base d'un contrat de service utile. À cet effet, les mouvements citoyens exigent au président de l'Assemblée nationale de dévoiler dans un bref délai les noms des criminels impliqués dans les crimes de l'Est, afin que ces derniers soient jugés conformément à la loi.
Je vous le disais en titre, le français devient désormais une des langues officielles aux côtés du swahili et de l'anglais pour des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Annonce faite par Serge Tshibangu, mandataire spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'était hier lors de la cérémonie de clôture du forum économique organisé à Kinshasa sur la vulgarisation de l'EAC. Écoutez plutôt Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État, au micro de Jean-Claude Loki.
Les 100 millions de Congolais que nous représentons, 100 millions au moins, en fait, pourraient bénéficier donc des échanges commerciaux dans leur propre langue. De la même manière que nous allons prendre le swahili ainsi que l'anglais comme langue de la région, des échanges commerciaux et tout ça, eux aussi sont prêts à se plier pour pouvoir communiquer en français. Au lieu que nos frères de la région de l'Est puissent se tourner vers d'autres entités pour pouvoir apprendre le français, les Congolais ont assez d'expertise, ils ont assez d'expérience. Et nous avons même la possibilité d'étendre toutes nos connaissances en français auprès de frères de la région. Pourquoi pas apprendre d'eux, par exemple, comment ouvrir des centres de langue française à l'est de notre pays ou encore dans ces pays de la région. Nous avons des bons instituteurs, nous avons des bons professeurs de français qui ont juste besoin d'une petite dose d'entrepreneuriat pour pouvoir donc lancer quelque chose de nouveau qui permettra justement à nos frères et sœurs de pouvoir se familiariser avec la langue française.
Et puis cette bonne nouvelle pour la population du Maniema, 70 écoles seront bientôt construites dans les 7 territoires que compte cette province. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, soit 10 écoles par territoire. Déjà une équipe de la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation des infrastructures scolaires est à Kindu pour certifier les écoles mises à leur disposition. L'architecte Chérif Okoko l'a dit hier à Radio Kapi au sortir de l'audience avec l'autorité provincial. Chérif Okoko en parle au micro de Florence Kiza.
Nous sommes au Maniema sur le projet des 145 territoires. Nous sommes venus parce qu'il y a une liste des écoles. C'est un projet mixte. Il y a les gens du ministère de la Santé, nous de l'EPST et les experts de la CNED. On est venus certifier les écoles qu'on nous a données, vérifier si ça existe, si ça porte les numéros CCOP. On vérifie et avant l'exécution, si on certifie, donc les travaux, c'est essentiellement. À bientôt parce que moi, je n'ai rien à promettre. Moi, je suis expert. Je suis un technicien. Je suis venu voir, vérifier la faisabilité, la route qui va amener les matériaux de construction, voir comment ça va se passer. Moi, je suis réaliste. Donc, avant la rentrée scolaire prochaine, on aura de nouveaux bâtiments. Parce que le projet cadre sur 10 écoles dans chaque territoire. Ce sont uniquement des écoles primaires pour la gratuité. C'est dans le cadre du projet de la gratuité de l'enseignement primaire. On aura 10 écoles dans chaque territoire. Maniema compte 7 territoires. Dans chaque territoire, il y aura 10 écoles à construire. Il y aura aussi un bâtiment administratif et un hôpital de référence, à ma connaissance.
Entre-temps, dans la province du Kwilu, les enseignants réunis au sein de l'intersyndicale de la province éducationnelle de Kikwit observent depuis mercredi 7 septembre un arrêt de travail, ce jusqu'à la paix du mois d'octobre 2022. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale tenue le même jour à Kikwit. Le président urbain de l'intersyndicale des enseignants de Kikwit a indiqué hier à Radio Kapi que ces enseignants protestent contre la non-réalisation par le gouvernement de leurs revendications, entre autres la mécanisation de toutes les nouvelles unités et l'application des accords de Mbuela Lodge. Cependant, ce mouvement de grève est boycotté par d'autres syndicats car, disent-ils, ils n'ont pas reçu l'aval au niveau national. Irène Mboma nous en dit plus.
Selon Benoît Kassiama, président urbain de l'intersyndicale des enseignants de Kikwit, des centaines d'enseignants ayant pris part à cette assemblée générale mercredi ont opté à l'unanimité pour ce mouvement d'arrêt de travail. À l'heure actuelle, les enseignants sont en grève et cela jusqu'à la paix du mois d'octobre 2022, a-t-il affirmé.
Les enseignants sont en grève. Les revendications, c'était d'abord la paix de toutes les nouvelles unités et la paix selon les barèmes de Mbuela Lodge.
Cependant, sur place à Kikwit, cette grève est annulée par certains syndicats tels que les Sinecat, les Sinep et autres qui ont lancé des communiqués aux médias pour appeler les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Les enseignements se donnent normalement dans plusieurs écoles de Kikwit, comme le témoigne ici Alain Laoui, parent d'élève et président de la société civile de Lukolela.
À Salisana, les cours se donnent comme il se doit. Tous les enseignants sont là, à l'ITPK et d'autres écoles. Donc il y a beaucoup d'écoles là où les enseignements se donnent. Malgré ces mots-là, avec l'appel des autres syndicats, dont le mot n'est pas, je peux dire, respecté.
Pour Erasme Novelle, président provincial de l'intersyndicale de l'EPST Kouiloudé, cette grève est jugée inopportune parce qu'isolée et n'a pas reçu l'approbation de l'intersyndicale nationale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le concours pour le recrutement des magistrats est fixé pour le 9 octobre prochain, d'après un communiqué signé le 7 septembre en cours par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. L'objectif est de recruter 3000 nouveaux magistrats, dont 1500 seront pris la première année et 1500 autres l'année suivante. Cependant, les anciens candidats qui avaient réussi au concours organisé en 2009 et qui sont sur la liste de réserve se disent être surpris du fait que le Conseil urbain de la magistrature ne s'occupe pas de leur cas. D'après certains d'entre eux, priorité devrait leur être accordée. Pour cela, ils plaident pour que la loi portant statut des magistrats soit respectée en cette matière. Écoutez à ce sujet l'un des magistrats concernés, David Mukau Bakajika, au micro de Jean Gandou.
Nous étions au total sur l'ensemble de la République 2500. En 2010, on a eu à nommer 1000, en 2011, entre l'autre 2000, nous étions portés sur la liste des réserves. Nous avions rappelé à tous les gouvernements qui se sont succédés à l'époque. Le président Luamba avait répondu disant que nous devrions attendre les assises du Conseil supérieur de la magistrature. Notre leitmotiv, c'est l'article 2 de la loi portant statut des magistrats. Cet article est strict à son cinquième alinéa. Il dit on ne peut pas organiser un test à la magistrature si la liste de réserve n'est pas épuisée. Alors nous, nous sommes sur la liste de réserve, mais curieusement, il y a un communiqué officiel qui précise la tenue des tests de la magistrature pour le 9 octobre. Ce communiqué, nous estimons que ça vient en violation de cet article. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de voir notre cas afin que nous puissions être aussi nommés. Nous avions passé le test en bonne et due forme, nous avions réussi.
Rendons-nous au Sud Kivu. Plusieurs abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL Bukavu attendent avec impatience le raccordement au système Cash Power. Lancé depuis bientôt 2 ans, ce système a atteint 10 000 abonnés sur une projection de 70 000 clients attendus dans la ville. Le directeur provincial de la SNEL invite ses clients à prendre leur mal en patience. Jovi Mulemangabo annonce aussi une autre innovation qui va consister à payer la consommation du courant en monnaie électronique, comme ça s'est fait pour l'achat des crédits téléphoniques. Le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu explique au téléphone de Jean Kassami.
Nous sommes en train de continuer à reprendre notre clientèle sur le nouveau système Cash Power. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 10 000 clients qui sont alimentés par le système Cash Power. C'est toute notre clientèle qui doit passer à mode de paiement. Donc nous avons plus de 70 000 clients et nous sommes en train d'alimenter tout le monde dans le système Cash Power. C'est ça notre objectif. Que ceux qui ne sont pas encore alimentés par le système Cash Power soient calmes. Nous sommes en train d'y aller progressivement et sûrement. Mais ce qui est sûr est que tout le monde sera pris en système Cash Power. Il y a beaucoup de délestages qui se font pour le moment compte tenu de la puissance installée largement supérieure à ce que nous recevons de nos centres de production qui sont l'usine première et l'usine deuxième. Notre direction générale, ils sont en train de s'atteler pour que nous puissions aussi commencer à vendre par monnaie électronique, c'est-à-dire que les gens puissent commencer à acheter leur courant à distance sans pour autant se déplacer. Cette innovation peut commencer vers la fin de cette année ou bien au début de l'année prochaine.
Actualité internationale. Les représentants de 24 pays africains appellent les pays développés à respecter leurs engagements financiers pour aider le continent à s'adapter au changement climatique. C'est en prévision de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, COP27, prévue en Égypte en novembre prochain, ont-ils annoncé dans un communiqué vendredi. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, déclarait mercredi devant les représentants des pays africains qu'il espérait que la COP27, je le cite, puisse libérer l'énergie dont nous avons besoin. Pour changer le monde, nous sommes en difficulté. Fin de citation. Cette rencontre de 3 jours accueillie par l'Égypte s'est déroulée après un sommet lundi aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Cependant, le président de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, a relevé avec amertume l'absence des dirigeants des pays industrialisés à Rotterdam. Elisabeth II a entretenu des attaches particulières avec les anciennes colonies britanniques et les membres du Commonwealth en Afrique. De son début de règne au Kenya à ses rencontres marquantes avec Kwame Nkrumah et Nelson Mandela, Elisabeth II s'est rendue 21 fois en Afrique. Selon le site de la famille royale, la reine a visité pratiquement tous les pays du Commonwealth, mais certains voyages ont davantage marqué son règne long de 70 ans que d'autres.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons ce midi le bourgmestre de la commune rurale de Oïcha, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Il nous parle de la situation catastrophique des personnes déplacées dans cette région, avec comme conséquence notamment l'occupation de plusieurs espaces scolaires. Nicolas Kikuku parle également des mécanismes mis en place pour la délocalisation de ces déplacés. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le bourgmestre Nicolas Kikuku, bonjour.
Bonjour.
Certaines écoles de la commune rurale de Oïcha, les cas précis de l'école primaire Mangaza, se transforment en sites de déplacés. En tant qu'autorité communale, quelle perception faites-vous de cette situation?
Nous déplorons cette situation
mais c'est un défi. Et je peux vous rappeler qu'il y a eu un moment, c'est l'année passée, où nous avons monté des opérations qu'on a appelées « zéro ménage » dans les salles de classe. Et cela, on a réussi avec l'appui local, même de nos partenaires, avec Aldi, avec NRC et les autres. On a réussi à prendre presque tous les ménages qui étaient dans les salles de classe, que ce soit à Mwangaza, à Mabalako, à Lépé, à Massossi. On les a déplacés de là jusque dans les sites transitoires. Fort malheureusement, du coup, la guerre ou les tueries ont continué dans la grande agglomération de Wicha. Nous, quand nous parlons agglomération de Wicha, donc il faut prendre Wicha et toutes ses périphéries. Il y a eu un mouvement de la population, donc de nouveaux déplacés. Et c'est ce qui fait que nous puissions encore avoir de déplacés, malheureusement, et d'une manière inopinée dans les salles de classe. Alors, quel mécanisme nous allons faire? La première chose, c'est faire des plaidoyers. Au niveau local, nous saluons notre population qui accepte d'accueillir le ménage dans leur famille. Et aussi, les gens sont dans les salles de classe. Nous n'aimerions pas qu'ils puissent rester là-bas. Nous sommes en train de mener des plaidoyers d'abord auprès du gouvernement. Nous sommes en train d'être contents puisque quand même il y a des feedbacks, puisqu'il n'y a pas longtemps que certaines organisations internationales sont en train d'augmenter la capacité dans les sites. Et ce n'est pas encore suffisant. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous sommes en train de continuer puisque c'est par exemple à la mission, là où on avait 4 sites, nous avons eu la chance, il y a AIDES, il y a aussi d'autres partenaires qui ont érigé d'autres maisons pour essayer de réduire tant soit peu le nombre de déplacés qui étaient par-ci par-là. Donc, nous continuons toujours avec le plaidoyer, ça va peut-être aboutir. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est pénible et tout ça, ce sont les effets collatéraux de la guerre.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sites où on peut délocaliser dans l'urgence ces déplacés parce que les enseignants craignent sur l'état des lieux éducationnels et même sanitaires de leurs enfants?
Oui, nous savons que, comme je venais de le dire tantôt, c'est ça le souhait, mais comme nous sommes dans le plaidoyer, on ne saura pas donner une promesse parce que ce n'est pas facile. Nous-mêmes, nous avons été là, nous avons vu les exercices, que ce soit les déplacés qui sont en train de souffrir, et même les élèves qui sont en train de souffrir et les enseignants. J'ai été moi-même là-bas, j'ai vu comment les enfants pouvaient même chier à côté de la porte de l'école. C'est ce que nous vivons, c'est pénible. Nous l'affrontons, ces défis, Dieu voulant. Cela va passer.
Monsieur le bourgmestre, avez-vous entamé avec la sensibilisation déjà de la population pour l'accueil temporaire de ces déplacés afin de libérer les salles de classe pour les élèves?
Nous sommes en train de dire que nous remercions d'abord le beau Dieu, parce que c'est Dieu qui est en train d'utiliser ces familles-là pour accepter les frères qui viennent d'ailleurs, puisqu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous pouvez penser qu'il y a tel qui est venu de Mukoko, tel qui est venu de Ringeti, soit d'Otmabere, mais on ne sait pas ce qui peut vous arriver aussi demain. C'est pourquoi nous remercions ces gens-là qui acceptent de prendre à charge les déplacés. Ça fait partie aussi du service que ces gens sont en train de présenter. Et à nos déplacés, de ne pas se décourager. Et soyons toujours positifs. L'exercice qui est pénible que nous sommes en train de traverser, un jour, cela va passer. Et comme je vous l'ai dit tantôt, que tout cela, ce sont les effets de la guerre. Nous savons qu'un jour, notre gouvernement n'est pas en silence. Et les plaidoyers que le chef de l'État est en train de faire et les autres, nous pensons que cela va produire, cela va donner les effets. Et un jour, nous serons à paix.
Monsieur le bourgmestre Nicolas Kikuku, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le bourgmestre de la commune rurale de Oicha à Beni Territoire répondait aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Piero Elamenji et Noéla Luzitukabambi. Dieudonné Nyangas a été à la mise en onde et Belinda Bosuma devant ce micro. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite des programmes sur Radio Kapi.